9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question avec nos invités et avec vos témoignages pour éclairer toute l'actualité. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Avec cette enquête édifiante à la une sur les ravages du cannabis, une enquête menée dans 6 pays avec les exemples appuyés des villes d'Amsterdam et de Londres et qui démontre que les personnes qui consomment du cannabis tous les jours sont 3 fois plus susceptibles de développer des troubles psychotiques. On parle de paranoïa ou de schizophrénie. Comment lutter contre ces dérives et comment soigner ces malades, le cas échéant? Invités et témoins sont en plateau avec nous et vous n'hésitez pas à témoigner dès maintenant. Le standard est ouvert sur le sujet.
C'est le 39-21.
Et puis à 10h, l'entrée dans le printemps nous conduit au potager avec une littérature abondante sur la question. De plus en plus de Français, vous le savez, cultivent leur jardin, leurs légumes, avec le plaisir de voir aussi la nature s'éveiller. Le potager dans tous ses états, du circuit court au carré de terre urbain. Vous nous appelez là encore si vous voulez nous faire partager votre expérience. C'est le sommaire du tour de la question jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec nos invités pour vous guider sur cette étude accablante dont on va parler point par point et qui met en lumière les conséquences dramatiques du cannabis. J'accueille d'abord Olivier Fan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre et addictologue à la Fondation Santé des étudiants de France et à la Croix-Rouge française. Cette étude, elle a été effectuée donc dans 6 pays différents, de l'Europe au Brésil. Elle montre que la consommation quotidienne de variété forte de cannabis serait responsable de 5 nouveaux cas de troubles mentaux sur 10 de type psychose. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire dans le détail, les variétés fortes de cannabis, Olivier Fan?
Ça veut dire simplement qu'il y a un effet dose, c'est-à-dire que plus ce qui est toxique dans le cannabis, c'est ce qu'on appelle le tétrahydroxycannaminol,
le fameux THC,
qui ces dernières années effectivement a augmenté en concentration dans les produits vendus. Hein, donc ce qui est intéressant dans cette étude, c'est effectivement l'effet dose, c'est-à-dire que plus la consommation est précoce, plus le cannabis consommé est fortement dosé en THC, plus le risque est important. Et je pense que c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est de démontrer cet effet dose.
Pourquoi on augmente la dose de THC? Qu'est-ce que ça procure
davantage? Parce que ce qui est intéressant chez les consommateurs, c'est évidemment d'avoir, comme on dit, un coup de barre, c'est-à-dire des effets du THC, un peu comme l'alcoolique qui recherche la concentration en alcool parce qu'il recherche la défonce. Et c'est ça, la défonce est complètement dépendante de la concentration en produits psychoactifs. Donc c'est à la fois ce qui est recherché, mais en même temps ce qui est toxique. Ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est elle confirme d'autres études en termes scientifiques. Il ne faut pas qu'une seule étude.
Bien sûr.
Il faut un panel. Et là, ça fait plusieurs études qui vont dans le même sens, qui démontrent que la précocité de la consommation, l'importance de la concentration et la fragilité de l'adolescence sont des facteurs de risque importants. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas dépister qui est fragile ou qui ne l'est pas.
Ouais.
Donc le principe de précaution, évidemment, ce serait d'éviter toute consommation à l'adolescence parce que c'est un produit particulièrement dangereux à cet âge-là.
Et c'est un peu la loterie, on verra ça dans le détail avec vous. Ces drogues en haute teneur en THC, on en trouve en grande circulation, notamment dans les villes d'Amsterdam et de Londres. Cette étude est aussi intéressante parce que, en l'occurrence, en Amsterdam, le cannabis est en vente libre, ce qui suppose davantage de ravages aussi sur les populations les plus faibles, les plus vulnérables, les adolescents.
Oui, je crois que c'est encore une fois, c'est comment protéger cette population particulièrement vulnérable et qui est sensible à l'action du THC. Et effectivement, il y a un effet dose qui est encore une fois important. Donc la vraie question, c'est comment peut-on faire pour protéger cette population. Voilà, on se pose les questions et c'est vrai que c'est un gros problème.
Tous les jours, vous êtes en contact donc avec des adolescents qui ont tous un terrain particulier. C'est-à-dire que on peut être plus ou moins réceptif aux effets du cannabis, à la dose de cannabis, plus ou moins addict aussi.
Oui. Après, ce qu'il faut dire, c'est vrai que c'est un peu plus complexe à expliquer, mais à l'adolescence, il y a un certain nombre d'adolescents fragiles qui font un épisode psychotique bref, c'est-à-dire qu'ils peuvent décompenser à un moment donné. Mais tout peut rentrer dans l'ordre.
Épisode psychotique, dire, comment on peut le caractériser?
C'est-à-dire un moment où on a des hallucinations, on a un délire, on a un non-fonctionnement de la pensée. Et la question, la vraie question, c'est que ce qui est aurait pu être bref, se prolonge à travers la consommation de cannabis. C'est-à-dire que ces populations fragiles, hein, qui présenteraient une difficulté à l'adolescence, au lieu de se résorber normalement à l'âge adulte, eh bien évidemment, tombent dans la schizophrénie. C'est là le danger. Nous, ce qu'on voit, ce sont des adolescents fragiles, hein, qui, s'ils n'avaient pas consommé massivement du cannabis, s'en seraient sans doute mieux sortis que s'ils n'avaient pas eu des consommations importantes. Et évidemment, ces gens fragiles consomment en quantité et en qualité des produits qui les fait basculer. Hein. Rappelons que le cannabis, initialement, c'est un hallucinogène.
Oui, bien sûr.
Tout dépend des doses qu'on prend. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, on a un cerveau en plein développement, il faut mieux éviter d'en toucher.
Hein. On va expliquer la vulnérabilité justement des adolescents vis-à-vis de ces substances. Nous sommes avec Christine en ligne 3921. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci de nous éclairer sur ce sujet-là avec votre témoignage. Vous qui avez un fils de 25 ans qui a consommé du cannabis, vous nous direz s'il en consomme ou pas aujourd'hui. À partir de quel moment avez-vous compris qu'il consommait ces substances et si vous avez vu son comportement changer, expliquez-nous comment.
Alors notre fils a souffert de harcèlement scolaire en quatrième, on l'a changé d'établissement.
D'accord.
Et là, pour s'intégrer, pour trouver des copains, être avec ses pairs, il a choisi le groupe qui consommait du cannabis.
Mmh.
Alors on s'en est pas aperçu tout de suite parce que notre fils avait 14-15 ans et on a mis ce qui se passait sur le compte de l'adolescence. Après, on s'en doutait, mais les mesures qu'on peut prendre face à un consommateur de cannabis, elles sont assez minces. On s'est contenté de pas lui donner de l'argent, de lui faire la morale, de
bien
lui
sûr,
expliquer que c'était dangereux pour lui, mais on ignorait tout sur ses risques de schizophrénie. Et puis notre fils a eu son bac, il était déjà un gros consommateur et j'écoutais l'émission et j'entendais qu'effectivement la concentration en THC était importante et notre fils a fait une bouffée délirante parce qu'il a fumé du cannabis pur sans tabac.
Oui.
Sans tabac. Il l'a fait à 17 ans. Il a basculé avec des hallucinations visuelles et auditives. Ça a duré quelques jours. Il est resté à l'hôpital un mois et demi. Et il en est sorti avec un traitement.
Ah, c'est terrible.
Il a repris une vie à peu près normale.
Oui, il avait quel âge?
Mais il a repris aussi une consommation forte de cannabis.
Oui.
Ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, il a arrêté son traitement. Et tout en continuant à fumer. C'était en avril-mai.
Mmh.
Et puis en août, petit à petit, il a commencé à avoir des craintes de type paranoïa, qui s'est enfermé chez nous. Jusqu'en décembre, où il a organisé une espèce de cérémonie pour se faire seppuku, pour s'ouvrir le ventre, comme un samouraï japonais.
On l'a
fait hospitaliser, et il a fallu 6 mois pour que les médecins trouvent un traitement qui a fonctionné.
En l'occurrence, on lui a diagnostiqué une schizophrénie.
Il y a des critères.
Oui.
Il faut le cumul de certains critères pendant un certain temps. Le médecin expliquera ça mieux que moi.
Oui.
Et il a vu brûler des enfants. Il entendait des voix menaçantes pendant bien plus longtemps que son hospitalisation. Ses angoisses ont reculé. Et maintenant, notre fils va bien.
Il est traité pour sa pathologie.
Ouais. Il ne fume plus ni cigarettes ni cannabis.
Oui.
Il a une consommation modérée d'alcool.
Mm-hmm.
Il accepte le fait d'être atteint de ce syndrome de schizophrénie.
Mm-hmm.
Et qu'il faut qu'il prenne ses médicaments et il les prend avec une régularité de métronome, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ces malades.
Eh bien, Christine, je vais vous interrompre un instant, mais on va prolonger votre témoignage avec la lecture aussi de ce cas, pardon, de réduire votre fils à ce cas, mais vous m'entendez dans le propos, parce qu'il est très typique de ce que vous pouvez voir, Olivier Fan et Jean-Michel Delisle, qui nous rejoignaient maintenant, psychiatre et addictologue. Christine et son fils qui s'en est sorti, mais qui nous explique notamment les bouffées délirantes, comment le cannabis détruit aussi un peu le développement neuronal de ces jeunes en particulier. On va faire le tour de la question. Christine reste avec nous et vous pouvez témoigner comme elle, comme parent, comme consommateur, ancien consommateur, pour nous dire aussi les risques avérés du cannabis. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
On retrouve vous, Wendy Bouchard, pour le tour de la question. Comment la consommation de cannabis multiplie les risques de troubles mentaux ?
Avec une étude qui met en avant en effet les ravages liés à la consommation quotidienne du cannabis avec des fortes teneurs en THC. Comment la France réagit à ce sujet ? Nous sommes avec deux spécialistes, Jean-Michel Delisle, psychiatre et addictologue, président de la Fédération Addiction, et Olivier Fan, pédopsychiatre, addictologue à la Fondation Santé des étudiants de France. Je voudrais que vous réagissiez, messieurs, au témoignage à l'instant, mais elle va nous en dire davantage, de Christine, qui nous appelle de Strasbourg, qui a donc un jeune homme de 25 ans diagnostiqué schizophrène après consommation suraiguë de cannabis. Elle nous parlait de bouffées délirantes. À quel moment une bouffée délirante peut intervenir ? À quel stade, je veux dire, de la consommation, de l'addiction, Jean-Michel Delisle ?
Bien, une bouffée délirante, c'est un épisode délirant aigu, c'est-à-dire avec un début extrêmement brutal, des productions délirantes très, très, très riches, très diverses, avec des délires hallucinatoires, enfin, ce qui était parfaitement décrit. On se rend compte que le cannabis, qui est un hallucinogène, peut avoir un effet déclenchant chez des personnes qui ont une vulnérabilité. C'est souvent le cannabis qui, consommé à forte dose et avec des concentrations élevées, peut suffire en fait à déclencher cet épisode initial. Mais il ne se contente pas de ça, si j'ose dire, puisque la poursuite de la consommation de cannabis, comme c'était le cas là qui nous a été décrit, va contribuer aussi à chroniciser le trouble. C'est-à-dire que la bouffée délirante va ne pas rester peut-être isolée, mais avoir tendance à se chroniciser, à évoluer de manière beaucoup plus durable. Si bien qu'on le voyait bien dans le cas évoqué, non seulement il fallait évidemment prendre des traitements qui ont beaucoup aidé ce jeune homme, mais au-delà de ça, un élément crucial aura été pour lui l'arrêt du cannabis, qui lui permet à ce moment-là de retrouver une évolution de la maladie qui est peut-être plus aisée à contrôler.
Oui, sinon ils mettent en effet leur vie en danger, ces jeunes-là, en ne se contrôlant plus, en étant dans des délires parano, avec des tentatives de suicide à la clé. Olivier Fan, vous en voyez tous les jours.
On en voit, c'est vraiment un cas assez typique. Mmh. Avec le drame, c'est qu'effectivement, s'ils consomment, c'est que ça apporte quelque chose dans l'instant. Mmh. Hein, ça soulage dans l'instant, mais ça ne traite pas le trouble.
C'est censé l'apaiser. Ouais.
C'est-à-dire que ça apaise dans l'instant, mais pendant ce temps-là, ça aggrave. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Avec effectivement une diminution de sensibilité au traitement. C'est vrai que quand on consomme, on est moins sensible au traitement, on est plus sensible à des rechutes et on est plus sensible à des troubles du comportement, dont le risque suicidaire qui est majoré par la consommation de cannabis.
Mais pourquoi les ados sont si vulnérables ? C'est-à-dire que leur développement, leur cerveau n'a pas encore atteint sa maturité, Jean-Michel Delisle ?
Oui, ça a des données nouvelles ces 10 dernières années, à peu près en neuroimagerie, ont bien montré que contrairement à ce que nous apprenions quand nous étions jeunes étudiants en médecine, où on prétendait que le stock neuronal était constitué à la naissance et qu'ensuite, finalement, plus grand-chose ne se passait, on sait maintenant qu'au moment de l'adolescence, mais l'adolescence élargie, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans schématiquement, il y a de nouveau une neuromaturation tout à fait importante avec des remaniements neuronaux fondamentaux. C'est bien pourquoi dans ces phases de prolifération neuronale et synaptique, le fait d'inonder le cerveau d'une substance hallucinogène peut avoir des effets non seulement perturbants immédiatement, bouffée délirante, mais aussi peut avoir des effets de perturbation du neurodéveloppement, ce qui à ce moment-là va entraîner des conséquences au long terme, et notamment peut-être le risque accru de présenter un trouble chronique comme la schizophrénie. Mmh. C'est pourquoi c'est non seulement dangereux en consommation immédiate avec des épisodes qui peuvent être dangereux, des épisodes suicidaires, mais c'est également très dangereux finalement, parce que ça risque d'obérer le pronostic à long terme et faire entrer ces jeunes gens dans un trouble vraiment au long cours.
Et cette surconsommation, elle pourrit tout. Vous allez nous expliquer, Olivier Fan, combien de jeunes vous récupérez en situation de décrochage scolaire avec des troubles de l'attention, évidemment, troubles de comportement. On comprend bien. Christine va nous éclairer encore sur le sujet et nous accueillerons également Olivier au 39-21 dans cette discussion. Les ravages du cannabis, une nouvelle étude édifiante sur le sujet. Comment prévenir, comment lutter contre ces dérives et soigner ces malades? À tout de suite, on en parle jusqu'à 10h sur Europe 1. Nous revenons ce matin sur une étude accablante effectuée dans 6 pays différents qui met en lumière les conséquences dramatiques du cannabis qui serait responsable de 5 nouveaux cas de troubles mentaux sur 10. Wendy Bouchard.
Et absolument, Olivier Fan, pédopsychiatre, addictologue à la Fondation Santé des étudiants de France, nous disait que cette étude révèle beaucoup de choses. D'abord, la précocité de la consommation, l'importance de la concentration, du THC, la fragilité des adolescents, mais c'est un peu la loterie. Chaque consommateur ne réagit pas de la même manière. Et la consommation régulière de cannabis, Jean-Michel Delisle,
Lille, qui est trois fois plus susceptible, avec des cas qui sont trois fois plus susceptibles d'être diagnostiqués pour un épisode de psychose que ceux qui n'ont jamais consommé. Nous sommes dans les journées de sensibilisation de la schizophrénie. On fait le lien direct, parce que Christine le fait aussi, entre consommation de cannabis et schizophrénie. Évidemment, tous les schizophrènes ne fument pas de cannabis ou n'ont pas fumé de cannabis, et tous ceux qui fument ne seront pas schizophrènes, heureusement. Mais en tout cas, il y a un lien de causalité réel, là pour le coup, avec certains patients. Hein.
Oui, le cannabis est de façon de mieux en mieux établi un facteur causal de schizophrénie, c'est-à-dire ni nécessaire ni suffisant, comme vous venez de le dire, puisqu'une bonne partie, heureusement, des fumeurs de cannabis ne développent pas ce trouble, et toutes les personnes qui développent ce trouble, effectivement, n'ont pas fumé. Néanmoins, ce qui est de mieux en mieux établi, c'est que parmi les personnes qui ont une vulnérabilité psychotique, c'est-à-dire des personnes qui ont une fragilité notamment héritée, une fragilité génétique ou suite à des événements de vie, des traumas, etc., un certain nombre d'entre elles n'entreraient quand même pas dans la maladie, ne ferait pas ces bouffées délirantes inaugurales. Et on peut penser que chez ces personnes-là, le fait de consommer du cannabis peut être un facteur causal, justement, qui va les faire entrer dans la maladie. Et ça, c'est tout à fait fondamental, parce que grâce à cette étude qui est vraiment remarquable dans son format, enfin dans son caractère innovant, on se rend compte que selon différentes villes où les teneurs en THC du cannabis disponible, celui qui est vendu en fait aux jeunes, sont différentes, et où notamment les teneurs sont particulièrement élevées, Amsterdam et Londres, on se rend compte que dans ces villes, il y a une augmentation en fait, de l'incidence, c'est-à-dire des nouveaux cas de schizophrénie. Et on peut penser que ça, c'est vraiment un argument de plus en plus probant qui laisse supposer ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que le cannabis est vraiment un facteur causal important. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce travail, c'est qu'ils arrivent même à évaluer quelle est la part attribuable dans les nouveaux cas de schizophrénie à la consommation de cannabis.
Ah, oui.
Et c'est ainsi qu'à Amsterdam, on arrive à des données relativement stupéfiantes, si j'ose dire. C'est compte tenu des hautes teneurs de THC dans le cannabis disponible dans cette ville, ils évaluent à 50% le cas de
nombre. Un nouveau cas sur deux.
Oui, un cas sur deux serait en partie lié au cannabis, contre 30% à peu près à Londres. Donc on voit que là, c'est un enjeu tout à fait majeur en termes de santé publique.
Incroyable. Christine, votre témoignage est pour cela très, très important. Votre fils qui commence à fumer adolescent pour faire comme les autres, si j'ose dire, pour s'inscrire dans un groupe, qui fait des études plus ou moins, qui est diagnostiqué schizophrène, qui est soigné aujourd'hui. Vous voulez aider d'autres familles à gérer cette maladie qui est aussi très lourde pour l'entourage, à gérer ces difficultés. Vous faites partie de groupes, c'est ça
À l'hôpital civil de Strasbourg. L'UNAFAM. L'UNAFAM, c'est l'Union des familles de malades mentaux.
D'accord.
Qui propose des aides variées et diverses, des groupes de parole. Et je suis aussi une formation psycho-éducative qui s'appelle Pro-Famille. Et d'ailleurs, dans le groupe, nous sommes une douzaine de familles à le faire, à faire cette formation. Dans ce groupe-là, on peut dire que pratiquement tous les enfants ou les proches ont été confrontés au cannabis. On va dire, 9 sur 12. J'ai bien réfléchi hier soir. 9 familles sur 12, le cannabis est dans le parcours. On a même une personne dont la fille est hospitalisée et qui arrive à trouver du cannabis à l'hôpital malgré les fouilles, etc.
Ouais,
et malgré les traitements, donc elle ralentit finalement sa guérison.
Mmh.
Et puis effectivement, les effets sur les familles, au-delà des premiers moments qui sont la terreur, l'horreur de voir son enfant basculer dans quelque chose qu'on comprend pas du tout, le côté dramatique aussi pour les fratries, on doit abandonner tous les projets qu'on avait pour son enfant. Parfois, alors certains psychiatres écarte la famille, parce que notre fils était tout juste majeur quand il a fait sa première bouffée délirante. On ne peut pas expliquer cette maladie à ses proches, à ses copains, donc on s'isole socialement. C'est pour ça que j'invite les personnes qui sont confrontées à cette maladie à se rapprocher de l'UNAFAM et à essayer de connaître. Il y a d'autres associations aussi, une autre qui s'appelle Schizoui, qui est de la recherche.
Oui.
Il faut absolument que ces gens-là sortent de l'isolement, parce qu'au départ, on ne comprend pas. On a des malades qui sont complètement démotivés, qui vivent la nuit, et donc on les incrimine de paresse. Alors on parle maintenant de paresse pathologique, parce que la schizophrénie inhibe la motivation. Voilà, donc...
Oui, ce sont tous ces signes avant-coureurs qui doivent alarmer aussi.
Il y a aussi
voilà,
quelque chose qui existe à Strasbourg et pas partout, qui s'appelle un centre expert, qui associe un grand nombre de médecins différents, des psychologues effectivement, des psychiatres, mais aussi des ergothérapeutes, un tas de monde pour aider ces malades. et que je sais que ces centres experts sont menacés. C'est une fondation qui s'appelle Fondamental. Et je le sais par Martine Vonner, qui est députée. On se pose la question du financement de Fondamental. Il faut surtout pas arrêter ça, parce que c'est ce qui a sauvé notre fille.
Mais merci Christine. Je vais donner la parole à Olivier Fahn, qui est très à l'écoute de votre témoignage, parce que vous êtes aussi addictologue au Centre Jeunes Consommateurs à Paris, qui propose l'accompagnement des jeunes usagers de cannabis et qui inclut leur famille aussi dans cette réflexion. C'est très important, parce que vous n'ajoutez pas d'isolement supplémentaire.
Non, je crois que la famille, c'est un facteur de protecteur majeur. Dans le pronostic et des addictions et de la schizophrénie. Hein, donc c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à aider les familles, à aider leur enfant. Hein, on sait qu'avec ces patients, la difficulté, c'est de créer aussi une alliance avec eux. Ils peuvent se montrer assez méfiants. Mmh. Et malgré tout ce qu'ils disent, le lien familial est un lien très très fort qui a été en plus altéré et par le cannabis et par la schizophrénie. Donc rétablir ce lien permet d'améliorer le pronostic, y compris de la maladie. Hein, beaucoup d'études ont démontré l'intérêt et le rôle des parents. Et c'est vrai qu'un schizophrène qui a des parents qui sont présents, qui sont à l'écoute, qui sont à côté, me paraît quelque chose de fondamental. Là aussi, il faut aussi déculpabiliser les parents. Je crois qu'on en est revenu hein, de la psychose déclenchée par les pratiques parentales. Ça, ça a été balayé d'un revers de la main. Hein, la schizophrénie est une maladie et n'a rien à voir avec la question des pratiques parentales.
C'est important de le dire pour les parents qui nous écoutent. Oui.
C'est important, au lieu de les exclure, au contraire, de les inclure parce que ça améliore le pronostic de la maladie.
Oui, et c'est souvent le cas d'ailleurs pour d'autres troubles psychotiques, la dépression, la paranoïa. Alors, je vais donner la parole à Mickaël dans un instant, parce qu'on va s'éloigner quelques instants de ces cas de jeunesse pour voir si les ravages du cannabis sont aussi importants chez les populations adultes. Mickaël veut témoigner au 39-21. Il est consommateur régulier de cannabis. A tout de suite sur Europe 1. Nous parlons des effets de la consommation de cannabis avec vos invités, Wendy Bouchard. Oui. Jean-Michel Delisle est avec nous, psychiatre et addictologue, président de la Fédération Addiction. Olivier Fahn, pédopsychiatre, addictologue à la Fondation Santé des étudiants de France. Et on a toujours en ligne Christine pour son témoignage, mère d'un jeune homme de 25 ans, diagnostiqué schizophrène et qui a consommé du cannabis pendant plusieurs années.
Alors on a aujourd'hui quelques chiffres à vous livrer. Près de 4 adolescents de 17 ans sur 10 ont déjà fumé du cannabis au cours de leur vie. 42% des adultes âgés de 18 à 64 ans déclarent aussi avoir déjà consommé du cannabis. Et c'est le cas de l'auditeur qui nous rejoint maintenant. Mickaël, vous avez 44 ans, bonjour.
Oui, bonjour.
Et vous êtes manifestement consommateur régulier de cannabis. Depuis combien de temps ?
Oh, ça fait, on va dire, une petite trentaine d'années.
Donc vous avez commencé très très jeune.
Oui,
14 ans, j'étais au collège, quoi. Oui.
Ouais, voilà, exactement. Ouais.
Bon, et vous fumez à quel rythme, pardon, vous posez des questions précises.
C'est un 2 joints par jour.
Depuis 30 ans.
Ouais. Mais par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens ont tendance à mélanger ce qu'on appelle le shit. Ce que je trouve très répugnant d'ailleurs, et moi je consomme que de l'herbe de cannabis.
D'accord, c'est quoi la différence? Moi je ne suis pas experte, c'est entre résine et herbe, c'est ça?
Il y a beaucoup moins de produits, c'est pas coupé, moi je la fais moi-même et je ne mets aucun produit chimique dedans, quoi. Que dans le shit, il y a beaucoup de produits chimiques.
C'est-à-dire que vous avez l'impression de fumer que de l'herbe, c'est ça?
Exactement. Ni plus ni moins la plante.
D'accord. C'est une impression ou pas, Olivier Fahn, qui va vous répondre, addictologue.
Alors effectivement, dans le shit, il y a les produits de coupe. Mais je crois que l'erreur aussi serait de croire qu'il y a que les produits de coupe qui sont dangereux. Hein, ce que montre l'étude, c'est le THC, c'est-à-dire le produit en lui-même, peut avoir un impact. Alors évidemment,
mais le THC, il est naturel. Il est dans la plante.
Oui, dans la plante. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel.
Oui. Et qui a des vertus hallucinogènes.
Donc ça c'est le THC qui est contenu dans la plante, si naturelle qu'elle soit. Après, effectivement, sur les produits de coupe, on ne sait pas trop à quoi c'est coupé et ça peut avoir aussi une dangerosité.
Oui.
Mais encore une fois, de croire que le produit naturel est totalement inoffensif n'est pas tout à fait exact, hein, puisque effectivement, l'étude s'intéresse non pas aux produits de coupe, mais au THC, oui. C'est-à-dire la substance intrinsèque au cannabis. C'est un peu comme le vin et l'alcool.
Et pourquoi, hein, on coupe en général le cannabis?
Pour des questions de gain, c'est-à-dire que effectivement, les produits de coupe sont moins chers que les produits initiaux, et oui, ça permet aux dealers d'augmenter ses gains. C'est essentiellement pour ces raisons-là.
Si vous nous dites ça, Michael, c'est que pour vous, vous avez le sentiment, et c'est peut-être le cas, hein, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'effet sur votre santé, sur votre mental de cette consommation quotidienne.
Oui, mais bien sûr qu'il n'y a pas du tout d'effet. Sinon, ça ferait longtemps, j'ai une vie de famille, j'ai deux enfants, j'en ai une qui a 24 ans, qui sait très bien que je consomme depuis l'âge où elle est arrivée au monde.
Et qui fume aussi?
Non, pas du tout. Elle est pas du tout consommatrice de cannabis ni de cigarettes. Et ça n'engendre, enfin pour moi, hein, personnellement, ça n'engendre rien. Ma situation familiale, ma situation avec mes amis ou tout
oui,
ça.
Oui, mais sa santé, la santé de Michael, on va pas faire un diagnostic en ligne et virtuel, hein, Jean-Michel Delisle.
Ouais,
mais
ouais, bien sûr,
est-ce
ouais.
qu'il y a, est-ce qu'il n'y aura aucune conséquence sur son développement, sur sa santé? De votre point de vue.
Disons, de mon point de vue, et je vous en remercie d'ailleurs, l'enjeu majeur en termes de santé publique, c'est le risque par rapport aux troubles psychotiques chroniques, donc c'est la consommation chez les jeunes et les adolescents.
Oui.
Néanmoins, chez des personnes adultes, consommatrices.
Oui, il a commencé à 14 ans.
Voilà, consommatrices de cannabis, il va évidemment y avoir un risque, enfin c'est un facteur de risque sur la santé, mais qui sont d'une autre nature. Ils sont liés par exemple au fait que c'est une substance qui est fumée, même de l'herbe, c'est fumé. Donc c'est potentiellement cancérogène. Enfin, c'est des éléments qui sont à prendre en compte, un peu comme on le fait par rapport au tabac. Par ailleurs, le cannabis, au moins autant que le tabac, et peut-être même un peu plus, peut avoir un impact cardiovasculaire. C'est-à-dire, ça accroît le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral, ça accroît le risque d'avoir des artéries des membres inférieurs, ça accroît le risque d'avoir des insuffisances coronariennes, etc.
Oui, c'est beaucoup,
alors, c'est pas pour dramatiser la situation.
Non, mais vous êtes conscient de tout ça, Michael, en l'occurrence.
Mais là aussi, il y a un élément d'effet dose.
Bien sûr, j'en suis conscient.
Est-ce que vous fumez par ailleurs des cigarettes?
Oh, très rarement.
Oui.
Mais très rarement, je dois être à 5-6 cigarettes par jour, quoi.
Oui, vous êtes quand même fumeur.
Oui, je suis quand même fumeur, oui, bien sûr, je suis quand même fumeur.
D'accord.
Oui,
mais... Bon, j'ai bien compris que ça ne vous empêchait pas d'avoir une vie saine, une vie de famille, etc. Mais évidemment, il y a les risques induits. Jean-Michel, je vous laisse terminer.
Il y a un autre élément dont Michael est conscient, mais enfin, qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est qu'il y a un risque tout simple, mais enfin, qui est connu maintenant et qui a été établi en France depuis des années, c'est par rapport à l'effet du cannabis sur la conduite, hein, sur la conduite au volant. Il y a un élément qu'on
trouble
commence...
des réflexes.
C'est-à-dire ça ralentit un petit peu les réflexes. Heureusement, les fumeurs de cannabis ont tendance à conduire un peu plus lentement pour des raisons diverses. Néanmoins, on sait que ça accroît le risque d'accident et notamment d'accident mortel.
Oui.
Et puis, un autre élément, c'est que comme on a un effet générationnel, c'est-à-dire des personnes comme Michael, il y en a de plus en plus, puisque des jeunes qui ont commencé à fumer dans les années 70, 80, maintenant ils ont 40, 50, 60 ans, ce qui fait que les tranches d'âge,
seniors,
finalement,
en fait,
où l'on voit une augmentation de la prévalence des usagers de cannabis, ce sont les adultes. Et ça commence à poser des problèmes, évidemment, dans le monde du travail, notamment sur les postes de sûreté, de sécurité, les postes en élévation, etc., où il y a un certain nombre d'accidents du travail qui, pour partie,
sont liés à ça,
peuvent être reliés, oui, aux troubles de la concentration, aux troubles de l'attention, aux troubles de la vigilance, etc.
Olivier Fahm.
Voilà, je rajouterais sur les troubles de la mémoire, hein, qui sont quand même constants. Alors, sur les troubles de la mémoire, ça dépend de vos capacités initiales. Si vous avez 100% de capacité mémoire, si vous en enlevez 10, il reste 90. Si vous en avez 50, si vous en enlevez 10, il ne reste plus que 40. Donc, ça dépend aussi du terrain et on peut ne pas être gêné par ces troubles de la mémoire. Nous, on a des patients comme ça qui ne sont pas gênés. Néanmoins, ils existent quand même.
Eh bien, merci beaucoup pour avoir aussi cadré le phénomène d'une consommation régulière à l'âge adulte. Michael, merci pour votre témoignage au 3921. Nous allons entendre une question, je crois, d'Olivier qui nous appelle également au Standard Europe 1. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux. Ma chère Julie, on vous attend.
Oui, avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La question Facebook du jour, selon vous, prend-on un risque en consommant du cannabis? Oui à 72%, c'est le résultat de notre consultation. Oui, nous dit René, comme tout autre psychotrope, dont l'alcool. On pense toujours que le risque est pour les autres et pas pour soi. Message de Sylvain, pas plus qu'en buvant un verre d'alcool, alcool fort, ou en allumant une cigarette. Tout dépend de la quantité et de la qualité, précise-t-il. Gwendal nous dit évidemment, puisque c'est interdit, on prend le risque d'avoir des problèmes avec la justice. Là, c'est le risque d'être hors la loi, c'est autre chose. Le cannabis est bon pour la santé, c'est bio, juste des plantes, déclare Sylvain. Ah, voilà. Tout de go.
Vous avez bien répondu au sujet, Olivier Fagnin, à l'instant.
Et puis, pour conclure, cela n'empêche pas de légaliser le cannabis thérapeutique, débarrassé des effets psychotropes, dit Vincent.
Bon, on a fait une grande émission sur le cannabis thérapeutique, on en redira un mot éventuellement, Jean-Michel Delisle. Mais juste pour revenir d'un mot sur le cas de Michael, consommation depuis 30 ans, ça veut dire quand même que s'il fume 4 jours par jour, c'est qu'il est addict, Olivier Fagnin, d'une certaine manière.
Il y a une dépendance. C'est-à-dire qu'effectivement, l'arrêter risque d'être un petit peu compliqué, avec toutes les conséquences que ça a, c'est-à-dire l'impossibilité et quelque part une certaine perte de liberté.
Oui. Alors en l'occurrence, il nous parlait de sa fille de 24 ans qui n'a jamais fumé, qui ne fume pas, mais qui avait comme l'exemple de son papa qui fumait des joints 4 par jour. Vous avez eu un cas d'un père et d'un fils fumeurs, tous les deux, que vous avez traités en tandem?
Oui,
on
arrive à la génération où parents et enfants fument. Et le principe de « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais » marche très peu chez l'adolescent. Ah oui, donc, en fait, le fait que le père constatait les désordres chez son fils l'a aussi motivé lui-même à faire quelque chose pour justement être crédible vis-à-vis de son fils quand il lui demandait d'arrêter.
Olivier est avec nous au 39-21. Je vous donne la parole juste après Jean-Michel Delisle. Vous nous appelez de Blonville-sur-Mer. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Avec un témoignage ou une question pour nos invités qui sont à l'écoute?
Alors, une question, moi j'ai un ado de 16 ans et demi qui a décroché scolairement là, en milieu d'année. Et en fait, je me suis vraiment posé la question à savoir s'il ne s'était pas mis à fumer plus ou moins régulièrement. Je me suis posé la question notamment à cause de son décrochage, de ses fréquentations, etc.
Oui.
Et ma question en fait, c'est est-ce qu'on peut, nous en tant que parents, demander ou faire un dépistage pour savoir si, en fait, notre enfant consomme ce type de produit.
Alors, l'addictologue Olivier Fagnin, pédopsychiatre, vous répond, Olivier.
Oui, alors, le plus important, c'est la qualité du lien que vous avez avec votre enfant. Et faire des tests peut avoir pour conséquence d'altérer ce lien. Or, ce lien est précieux. Essayer d'en parler directement me paraît une solution importante.
Vous lui posez la question, pardon, Olivier, votre fils dit qu'il ne fume pas?
Il me dit qu'il a essayé, mais qu'il ne fume pas. Et voilà, maintenant, quand même régulièrement, je me pose des questions.
Bien sûr. Le problème, là, principal, c'est son désinvestissement scolaire. Et que là, je dirais qu'il y a une présomption d'imputabilité. Et qu'à un moment donné, il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a des conséquences. Le désinvestissement scolaire est quelque chose d'important et il faut en avoir le cœur net parce qu'il y a des conséquences.
Donc,
je crois que c'est discuter avec lui. Si il y a résistance, ne pas hésiter à consulter. Les cendres reçoivent aussi les parents sans leur enfant. C'est le cas d'une autre. Où on discute quelle est la stratégie à adopter vis-à-vis de l'enfant.
Vous êtes où, Blonville-sur-Mer? C'est où, Olivier?
C'est dans le Calvados.
Dans le Calvados.
À côté de Deauville.
Il y a des consultations aux jeunes consommateurs dans le Calvados qui n'hésiteront pas à vous accueillir. Ce qui me paraît là le plus important, c'est que là, il y a des conséquences. Il y a quelque chose de tangible. Oui. C'est pas simplement une suspicion de consommation. Il y a des conséquences sur la vie de l'adolescent. Et ça me paraît le point d'accroche supplémentaire. Mais alors, il y a quelque chose que je déconseille, c'est de faire des tests sans l'avis façon détournée, en trafiquant des toilettes, comme je l'ai vu, parce que ça se retourne contre la famille.
Une relation de confiance.
Voilà, la relation de confiance, vraiment, c'est un lien précieux parce que si vous avez le dépistage sans ce lien de confiance, le dépistage ne sert plus à rien, voire peut être contre-productif.
On prendra vos coordonnées, Olivier, et puis on vous mettra en relation avec Centre du jeune consommateur dans le Calvados. Vous pouvez trouver ça facilement, j'imagine, mais si ça bloque, on vous aidera sur le sujet. Merci, Olivier, de votre appel et voilà, bon courage pour ce dialogue qui doit être noué avec votre fiston. Michel nous écrit: mon fils consomme depuis plus de 10 ans, il a 30 ans actuellement, à la moindre frustration il s'énerve, au départ la fumette le calme mais quand il ne fume pas, il pique des crises et moi je vis un drame, j'ai presque peur de lui. Voilà encore une maman qui témoigne de beaucoup de témoignages similaires. Jean-Michel Delisle, comment expliquer ça?
C'est-à-dire le calme et la tempête. Typique du cercle vicieux dans lequel le cannabis enferme un certain nombre de personnes personne. C'est-à-dire les effets à court terme sont des effets souvent plutôt sédatifs, apaisants. Mmh. Ce qui fait que des personnes qui sont anxieuses ou un peu impulsives vont trouver dans le cannabis à court terme quelque chose qui leur semble plutôt bénéfique. En revanche, on sait, c'est toute la perfidie, si j'ose dire, de ce type de substance, c'est que l'exposition répétée, c'est-à-dire quand les gens reconsomment très régulièrement, l'exposition répétée à la substance va avoir l'effet un petit peu inverse, c'est-à-dire d'activer au contraire les circuits du stress, les circuits, notamment plus on devient dépendant, plus les moments de sevrage vont être des moments terriblement anxiogènes.
Donc on peut être en manque comme en manque de cocaïne.
Ce qui fait que qui dans un premier temps, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure là Olivier sur l'autre situation, ce qui dans un premier temps peut apparaître comme relativement bénéfique à court terme pour la personne, va en fait à moyen terme et à long terme avoir un effet au contraire délétère qui va amplifier le phénomène de départ. Sauf que la personne elle-même, elle a toujours le sentiment que ça l'apaise à court terme, ce qui fait que plus il y a de problèmes, plus on consomme, plus il va y avoir de problèmes. Et c'est ce qu'on retrouve typiquement avec des troubles anxieux.
Oui, ce qu'on retrouve aussi chez les malades internes schizophréniques, ils disent qu'ils consomment du cannabis pour s'apaiser en forme d'automédication, alors que c'est le serpent qui se mord la queue, là, Olivier Fan. Hein.
Ouais. Tout à fait, c'est effectivement ce qu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre, comme je le disais, et tout particulièrement les schizophrènes qui ont des crises d'angoisse absolument épouvantables et qui est source de grandes souffrances. Et c'est vrai qu'avant qu'ils découvrent les bénéfices du traitement, malheureusement, ils rencontrent le cannabis qui devient le premier objet qui a calmé la souffrance et qui c'est reste marqué, d'autant plus qu'il a été pris jeune. Donc ça laisse une trace, qui fait que ça reste ensuite sur la longueur.
Alors que quand ces jeunes sont traités, ils sont apaisés de la même manière, mais par un traitement.
Malheureusement, le premier traitement qu'ils ont sous la main, c'est ça, et ce qui est effectivement catastrophique pour eux.
On continue ce tour de la question. Je vous donne la parole juste après la pause, Jean-Michel Lelille. Gardez bien votre propos. On fait ce tour de la question sur les risques induits de la consommation du cannabis avec une nouvelle enquête édifiante réalisée dans 6 pays, 5 nouveaux cas de troubles mentaux sur 10 de type psychose liés à une consommation de ces variétés fortes de cannabis. À tout de suite sur Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et ses invités, deux médecins addictologues sont avec nous, le psychiatre Jean-Michel Delisle et le pédopsychiatre Olivier Fan. Vous avez écrit ensemble, messieurs, un livre à destination des parents, livre intitulé « Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent ». C'est aux éditions Solar.
Oui, et les parents témoignent en effet d'un certain désarroi lorsque leur fils, leur fille fume ou... dissimule la consommation. En tout cas, on a parlé aussi du lien de cause à effet très clair entre consommation régulière de cannabis et déclenchement de la schizophrénie. Isabelle va témoigner dans un instant au 39-21. On peut parler d'autres pathologies, d'autres troubles aussi psychotiques, mais d'abord la dépression, Olivier Fan. Le cannabis est un facteur aggravant ?
Notamment à l'adolescence. Mmh. Et ce qui est remarquable, c'est aussi le risque suicidaire, c'est-à-dire la levée de l'inhibition, ce qui engendre des risques suicidaires plus importants à un âge où on est plus sensible à la dépression. Mmh. Hein, là encore, le facteur de fragilité est important, mais le cannabis n'arrange rien, c'est-à-dire ce qui calme dans l'instant, ce qui calme un peu l'anxiété, mais en même temps aggrave le processus dépressif et surtout les risques de passage à l'acte.
Et le problème, c'est qu'on est souvent face à des adolescents qui sont dans le déni, qui disent que soit ils peuvent s'arrêter tout seuls, soit ce sont des consommateurs comme ça, qui prennent les choses un peu à la légère, qui ne sont pas conscients de ces risques et de ces ravages, parce que tout le monde réagit différemment.
Oui, alors il faut dire à leur décharge que leur perception de l'effet immédiat du cannabis, initialement, est plutôt apaisante.
Est plutôt bonne, oui.
Et donc, ils trouvent que leur expérience ne colle pas du tout avec ce que disent les spécialistes comme nous, qui attirons leur attention sur le fait d'une dangerosité. Et de fait, ça nécessite un lien vraiment et un travail d'accompagnement pour ces jeunes gens, de leur faire entendre qu'un effet à court terme apparemment bénéfique ne signifie pas que c'est en soi un bon produit. Mmh. Et c'est toute la perfidie, la ruse, en fait, de ce genre de substances, des drogues en général, d'ailleurs, que de faire des effets immédiats qui sont plutôt agréables, plutôt de l'ordre de la récompense, alors même qu'elles vont qu'elles vont engager en fait un pronostic à moyen terme qui lui va être dangereux. Oui. Et ça demande un travail psychoéducatif, d'accompagnement, de discussions apaisées avec ces jeunes gens pour arriver à les aider à prendre conscience de ce risque différent.
Discours un peu dissonant d'Isabelle qui nous appelle de Clamart dans les Hauts-de-Seine au 39-21. Bonjour Isabelle.
Bonjour Wendy.
Merci de venir témoigner. Dites-nous ce qui vous fait réagir en l'occurrence.
Moi, je consomme du cannabis depuis fort longtemps. Mmh. C'est-à-dire, j'ai commencé à 14 ans et j'en ai 54, donc voilà.
40 ans de consommation, oui.
Voilà, mais avec des pauses, avec des moments où j'ai pas fumé dans ma vie, d'autres fois où j'ai recommencé. Enfin, c'est c'était variable et c'est pas par nécessité. Mais par contre, je peux dire que ce fut une nécessité quand j'étais enfant parce que je faisais un peu d'épilepsie. Et à l'époque, quand on faisait de l'épilepsie, c'était ou des barbituriques très forts ou et rien d'autre. Mmh. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à fumer un peu, je fumais pas beaucoup, mais quand je fumais un peu, ça me calmait et ça me faisait du bien. Et on sait très bien que le CBD, le côté
le CBD,
positif,
c'est
de la plante, c'est que pour les épileptiques, c'est reconnu pour être bon pour les épileptiques.
Ce qui est mis en avant par ceux qui soutiennent la légalisation du cannabis thérapeutique.
Tout à fait.
Vous avez des enfants, Isabelle ?
Oui, j'ai deux enfants, oui.
Et
dont un fils qui fume de temps en temps maintenant, qui a fumé pas mal aussi adolescent.
Et que vous dissuadez pas de fumer, en l'occurrence ?
Si, ce qui est vendu dans le trafic, oui. Parce que c'est terrible. Pour avoir goûté ce qu'il a fumé, c'est tellement coupé, justement ce qu'on disait, parce que c'est une question de volume, c'est coupé, mais on ne sait même pas à quoi. Enfin, je veux dire, personne ne nous a dit encore à quoi c'était coupé, mais c'est épouvantable.
C'est très mauvais
en goût, en effet. Enfin, tout
mais où est-ce que vous vous fournissez, vous, alors, Isabelle ?
Ah.
Non, mais je veux dire, manifestement, vous n'avez pas les mêmes fournisseurs et vous ne consommez pas la même chose.
Non, mais moi, mon fils ne consomme plus, de ces choses-là, mais j'ai dû l'éduquer par rapport à ça, si vous voulez. J'ai dû lui montrer que, justement, il ne fallait pas fumer ces choses qui étaient vendues. Je parle de la résine de cannabis, hein, ce qui est surtout beaucoup vendu.
Oui, bien sûr. Alors, ça revient un petit peu à ce que nous disait Sylvain tout à l'heure.
Et la plante est complètement différente. La plante est complètement différente. Elle est très, très complexe. En plus, cette plante, il y a un Israélien qui étudie cette plante depuis 45 ans maintenant.
Oui, mais là, j'aurais juste donné la parole aux spécialistes de nouveau, de Jean-Michel Delisle et Olivier Fan. Pour reprendre vos propos et ceux de Sylvain, le cannabis est bon pour la santé, c'est bio, juste des plantes. On n'a rien à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Michel Delisle. Bah, la ciguë était aussi une plante, hein, pardon, mais elle était mortelle. En l'occurrence, ce n'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas de conséquences.
Disons que ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que dans les plantes naturelles, ce n'est pas une substance qui est contenue, c'est des centaines de composés, notamment dans le cannabis, dont deux principaux, donc le tétrahydrocannabinol, le THC, dont on connaît le rôle sans doute de facteur causal par rapport à la schizophrénie, mais il y a d'autres principes comme le CBD dont parlait Isabelle, et qui est maintenant identifié comme pouvant être utile effectivement dans le traitement de certaines formes d'épilepsie, à tel point que des médicaments qui sont maintenant accessibles en France comme l'épidiolex sont du CBD. Mmh. Mais c'est utile dans le cadre d'indications précises, sur prescription contrôlée
et
sans
vraiment,
THC.
Hein,
et là où il y a un piège, à mon avis, ça a été abordé, mais c'est de penser quand les usagers souvent finissent par avoir des effets négats liés à leur consommation et qui viennent contrebalancer un peu leur impression initiale.
Ça veut dire quoi, par exemple, les effets négatifs ?
Ils vont se sentir ralentis, fatigués, ils vont commencer à avoir des troubles de mémoire, ils vont commencer à se plaindre de ce qu'ils appellent la parano, c'est-à-dire l'impression que les gens les regardent un peu trop dans la rue.
Ouais. Ça, il faut s'interroger sur la consommation.
Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a cette perception-là, au lieu de l'attribuer à ce produit qui, dans leur esprit, a une représentation plutôt positive, ils vont sans doute l'attribuer à des produits parasites, des produits de coupage. Alors qu'en fait, ce qui est parfaitement établi, c'est que la plupart des produits de coupage sont des produits neutres, en fait. Ouais. Ce qui est important, c'est le THC, c'est lui qui présente un danger.
On a 20 secondes pour terminer avec le témoignage de Nathalie qui peut aller dans ce sens-là. Elle nous écrit « Je suis une consommatrice de cannabis depuis l'âge de 15 ans, ça fait donc 30 ans qu'elle consomme. Je n'arrive pas à en décrocher, mais je suis en arrêt maladie depuis 3 ans suite à un burn-out. Je souhaite savoir si cela peut être lié. Je suis aujourd'hui suivie par un médecin psychiatre. » C'est une possibilité, Olivier Fan.
En fait, ce qu'on appelait avant le syndrome motivationnel des fumeurs de cannabis, c'est-à-dire cette impression d'être motivé à rien, peut être dû à rien. Alors forcément, il y a eu des cofacteurs, mais en général, quand on a un burn-out, il faut éliminer tous les facteurs potentiellement pouvant l'aggraver. Le cannabis en fait partie.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup, messieurs. Nous referons une émission avec vous parce que c'est passionnant et parce que je n'ai pas pu donner la parole à chacun, mais vous avez déjà permis de dresser les contours des ravages liés au cannabis. Alors évidemment, il y a toujours deux camps, entre guillemets. On entendait certains témoignages aller dans le sens de l'apaisement. Mais votre expertise, Olivier Fan, vous qui publiez Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent aux éditions Solar, et la vôtre, Jean-Michel Delisle, psychiatre et addictologue, directeur du Centre d'études et d'informations sur la drogue et les addictions, était très éclairante. Merci à vous deux, messieurs. Et à tout de suite, ma chère Julie, on va suivre la passion
potager.
Des potagers, hein, ce début de printemps. Voilà, c'est le moment d'y revenir. C'est une vraie tendance qui se développe. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.